I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
Si te gare que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée possible, on va spoiler, hein, soyez prévenus. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de voir d'abord le film et ensuite de nous écouter. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs au style inimitable. Ils n'ont pas leur pareil pour tailler des costards. J'ai le plaisir de retrouver Julien.
Salut Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, il découpe avec soin nos enregistrements et puis il vous confectionne des émissions cousues main. Bonsoir Alain.
Salut à tous.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux contenus, de nouvelles émissions, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, last call, si vous voulez voir ou revoir Rocky sur grand écran au cinéma, c'est ce samedi que ça se passe. Hein. On vous le propose pour la séance CaptureMag. Rendez-vous à 19h au Club de l'Étoile. Cette semaine... Luxe, famille et trahison. On va vous parler de House of Gucci. Alors quand je dis Gucci, ça évoque peut-être pour vous des défilés de mode ou des chaussures très très chères, mais Gucci c'est aussi un drame, l'assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995. Maurizio Gucci, c'est le petit-fils et héritier du fondateur de la marque et ce crime c'est son ex-femme qui l'a commandité. Un scandale qui fait la une des tabloïds italiens et qui vaut à la femme en question, Patrizia Reggiani, le surnom de Veuve Noire. L'histoire de ce couple et son issue sanglante, elle a d'abord été racontée dans un livre publié par Sarah Gray Forden en 2000. Et dès 2006, Ridley Scott est annoncé pour en réaliser l'adaptation sur grand écran avec Angelina Jolie et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux. Le projet fait du surplace et Ridley Scott finit par refiler le bébé à sa fille, la réalisatrice Jordan Scott. Le temps passe mais rien n'aboutit, si bien qu'en 2016, le projet change encore de main et atterrit chez Wong Kar-wai. Mais là non plus, ça ne se concrétise pas. Finalement, en 2019, MGM reprend le film et retour à la case départ, la réalisation est confiée à Ridley Scott. Une brochette d'acteurs impressionnante est réunie pour l'occasion, avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino. Et le film sort en salle le 24 novembre 2021, l'année des 100 ans de la marque italienne. Alors, puisqu'on est dans Sale Temps pour un film, c'est quoi votre météo perso sur House of Gucci ? Julien.
C'est moi qui commence.
C'est toi qui commence.
Je l'ai déjà fait. Pardonne-moi, Clémence, mais je vais encore mettre le ciel tout blanc, là. Voilà, un peu frisqué, quand même. Hein. C'est vraiment un temps de merde, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi.
Un sale temps.
Ouais, c'est pas très...
Bien brumeux. Voilà, un temps de novembre.
Non, parce que la brume, c'est sympa, quoi. Non, il n'y a rien. C'est tout blanc.
Ok. Stéphane ?
Moi, je dirais La Brume, mais parce que en fait, Tony Scott, j'ai n'importe quoi. Excuse-moi, Tony. Ridley Scott sur Abus de filtre. Donc voilà quoi, et de fumigène et de choses comme ça. Donc en fait, on se perd un peu dans tout ça. C'est un peu moche. Et effectivement, comme dit Julien, c'est quand même le seul réalisateur, j'ai l'impression, qu'il va en Italie. Et en fait, à chaque fois qu'il y va, il fait moche. Donc à chaque fois qu'il filme l'Italie, c'est pas très beau. Alors que moi, je suis allé en Italie, en général, il y a du soleil et tout. Bah, chez lui, c'est toujours très, très, effectivement, le ciel blanc, pas très avenant quoi.
Bon, donc un temps pourri pour House of Gucci. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, Julien, est-ce que tu nous ferais l'honneur, s'il te plaît ?
Bah oui, bah alors rebondissons du coup sur ce que disait Steph. C'est-à-dire que un des trucs quand tu vois Ridley Scott qui s'attaque à House of Gucci, c'est que tu te dis mais pourquoi lui il s'intéresse à ce projet-là ? C'est-à-dire que Scott, il est quand même encore aujourd'hui, je pense, identifié pour les gros succès de ses débuts et même pour les films pour lesquels il a été enfin reconnu, on va dire, par la critique et par le public. C'est-à-dire, je pense à Gladiator, à Black Hawk Down, tout ça. Il avait un parti pris plastique plutôt fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais voilà, qui était là. C'est un autre débat sur ce que je pense de ces deux films-là, mais voilà. Et là, c'est vrai que le truc, c'est que le premier truc qui me frappe quand je vois House of Gucci, c'est que je me dis, il y a la possibilité de créer ou recréer un univers, de travailler autour de qu'est-ce que c'est la mode, qu'est-ce que c'est l'Italie aussi sur toute cette période de ce laps de temps assez long, et de faire appel justement à tout ce que l'Italie peut proposer visuellement. C'est quand même un pays qui est extrêmement riche, capiteux par exemple, ou des choses comme ça visuellement. Je sais pas si capiteux visuellement ça. Est-ce que c'est accepté par la team capture ? Je ne sais pas.
Capito.
Et là, en fait, le premier truc moi qui me frappe beaucoup dans le film, c'est que c'est d'une pauvreté visuelle, bien tapée quoi. C'est-à-dire que je parle pas vraiment de mise en scène en fait. Là, je parle vraiment de direction artistique et d'approche de la photo. C'est-à-dire que c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est toujours compliqué de dire c'est moche, mais en tout cas, c'est très plat. Il y a rien, c'est moi j'ai un souvenir quand je repense au film là, j'ai un souvenir d'un film un peu grisâtre, mais pas un grisâtre assumé, c'est-à-dire que il cherche pas non plus à faire un truc désaturé noir et blanc et tout, non, pas du tout, c'est du grisâtre pas très beau, comme s'il y avait une émulsion de pellicule un peu foireuse quoi qui était derrière tout ça. Et alors je me suis dit avec en plus une reconstitution historique que je trouve personnellement très faible. C'est-à-dire qu'il y a pas de... Moi, j'ai eu plein de fois, j'ai eu du mal à y croire, j'ai eu l'impression de voir des choses qui étaient, j'ai jugé comme anachronique totalement, des choses, par exemple, dans des restaurants où il y a des brûleurs de gaz, là, pour faire chaud et tout. Moi, dans mon imaginaire, peut-être que là, c'est moi qui suis déviant là-dessus, mais c'est un truc que je considère comme étant très contemporain. J'ai vu arriver ça.
Tu ne savais pas, dans les années 70, en Italie, ils étaient déjà équipés.
Peut-être, mais si tu veux, c'est vrai que c'est, moi qui habite à Paris, Rome, je n'y suis allé qu'une fois, mais donc ça, je ne pourrais pas juger là-bas. Mais à Paris, j'ai l'impression que c'est arrivé au début des années 2000, on va dire, ce genre de truc. C'est un détail, hein, mais voilà, tout est un peu à l'avenant, en fait, autour de ça. Alors, à un moment, parce que j'essaye de... Moi, j'ai été extrêmement attaché avec Ridley Scott. C'est quelqu'un, on pourra peut-être en parler un peu plus tard dans le podcast, mais c'est quelqu'un... Moi, j'ai couru après lui pendant toutes les années 90. C'est-à-dire que je suis quand même monté à Paris. Je vivais pas à Paris à l'époque, pour aller voir L'Âme de Fond. Et à chaque fois, je me disais, va revenir. C'est pas possible. Ce mec qui m'a offert les Duelistes, Alien, Blade Runner et Legend, il va revenir. C'est forcément. Et la rupture, elle avait été quand même relativement abrupte. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a encore des choses à changer dans un film comme Black Rain, mais elle était quand même relativement abrupte, quoi. Et à chaque fois, je me disais, il va revenir. C'est pas possible, il va revenir. J.J. il va revenir. Et à chaque fois, je me prenais une tanche. À chaque fois, j'étais extrêmement déçu. À chaque fois, je trouvais que c'était des films et affreusement faible. Et quand c'était des trucs genre Thelma et Louise, ou à l'époque, quand je l'ai vu à sa sortie, je trouvais ça correct, mais c'est un film qui vieillit à la vitesse de la lumière et qui n'est pas porteur, enfin, qui n'est pas du tout... si j'ai pu l'apprécier, en tout cas, ce film, c'était absolument pas pour ce que j'aimais chez Ridley Scott. Ridley Scott, c'est quand même un vrai créateur de forme. C'était le leader de toute cette école plastique anglaise qui s'est d'abord manifestée dans la publicité, ensuite dans le vidéoclip, et qui a vraiment révolutionné une façon, en fait, de filmer, de voir le monde, d'appréhender la photographie et tout. Donc moi, je suis attaché à ce truc-là chez Scott tout le temps, et ça continue, ça perdure, en fait, aujourd'hui, même s'il m'a énormément, continuellement déçu, quasiment systématiquement. Enfin, moi, j'aime aucun de ses films depuis Legion, hein, vraiment.
Même le dernier duel.
Alors, je n'ai pas vu, malheureusement, le dernier duel, et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, c'est qu'on l'a loupé, on n'a pas vu les projos passés à Capture, et voilà, en fait, le sale temps pour un film n'était pas complètement relancé, je crois, hein. Enfin, Stéphane,
si, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas disponible à ce moment-là. Enfin, ça s'est passé un peu à un moment donné où moi j'étais pas là.
Ouais.
Donc il y a eu un souci, et en fait, on est passé sur autre chose. Oui,
parce que tout le monde nous dit que c'est génial et tout.
Alors tout le monde nous dit que c'est génial. Je ne remets la parole de personne en question, hein, mais on m'a dit ça sur Gladiator, on m'a dit ça sur Kingdom of Heaven, on m'a dit ça sur. Je suis sûr qu'il y en a deux autres depuis. Et en fait, à chaque fois, c'est.
Oui, alors.
Et voilà, donc, je ne juge pas le dernier duel, on l'a pas vu. C'est peut-être un chef-d'œuvre de la trempe de. Mais pour moi, en fait, justement, il faudrait que ce soit un chef-d'œuvre de la trempe de Blade Runner pour que je croie tout le monde. En fait, on en est là, quoi. Parce que, effectivement, comme Julien, j'ai le même problème, j'ai un problème de déception énorme. Moi, j'ai lâché l'affaire depuis bien plus longtemps que Julien, pour le coup. C'est-à-dire, je pense que au moment où il a eu vraiment le plébiscite de Gladiator. Et quand moi j'ai vu le film, je me suis dit c'est pas possible que le mec
de
Blade Runner.
Ouais. En fait,
quand j'ai vu ce plébiscite, je me suis dit il reviendra jamais, parce que de toute façon, s'il est capable de faire quelque chose de ce tremplin, c'est-à-dire quelque chose de, pour moi, hein, complètement raté, et même en termes d'exigences visuelles, hein, et d'exigences formelles et tout, parce que c'est un formaliste à la base, Ridley Scott, quoi.
Et il se définit comme tel encore aujourd'hui, hein. Voilà. Moi, j'ai entendu sur les interviews de House of Gucci, lui-même s'assume comme ça encore,
voilà,
aujourd'hui.
Et qu'il soit capable en fait de se satisfaire juste de cette qualité visuelle, c'est-à-dire très piètre pour moi, parce que Gladiator, c'est voilà. Mais on va peut-être un petit peu en parler, parce que je pense qu'il y a des ponts avec House of Gucci quand même, mine de rien, quoi. Mais du coup, moi, j'ai lâché l'affaire depuis longtemps, et c'est vrai que là, ce duel, oui, on l'aurait traité. Faut pas que les gens croient qu'on est snob, en fait, au point de pas traiter du Ridley Scott. Hein. C'est pas ça la question. C'est juste que c'est pas arrivé à ce moment-là. Et que du coup, bah oui, on fait une forme de rattrapage. Sauf que malheureusement, j'ai l'impression qu'à House of Gucci, il y a quand même un consensus autour du fait que c'est raté. Quoi.
Ouais, pour le coup, mauvaise pioche. On s'est dit, on n'a pas pu traiter le précédent Scott, on va faire celui-ci.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais il fallait le mettre en contexte pour montrer patte blanche. Parce que c'est vrai qu'on fait attention à ce que les gens disent. Et on voit bien qu'il y a un truc où on est accusé d'avoir de rentrer en salle quand c'est un Scott, notamment, mais bon, c'est pas le seul réal, en se disant c'est perdu d'avance. C'est pas le cas, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de défiance aujourd'hui, et ça me semble légitime, hein. Je j'ai pas à me justifier là-dessus. Enfin, en tout cas, je peux l'expliquer, je l'ai remis en contexte, mais par contre, j'essaye d'y croire. Et là, en l'occurrence, je reviens du coup sur House of Gucci, ce que je disais sur ce choix plastique qui moi, m'a vraiment désarçonné, parce qu'en plus, jouer sur les couleurs et tout. Aujourd'hui, c'est facile, je veux dire, avec l'étalonnage numérique, avec tout ça. Ils ont plein d'outils aujourd'hui pour sublimer et essayer de chercher quelque chose de, en tout cas, qui te choque, enfin, en tout cas, qui soit une proposition, voilà. Et là, à un moment, je me suis dit, mais alors attends, ça se trouve, c'est toi qui comprends pas la démarche de Scott, et vous allez voir comment j'essaie de le justifier. Je me suis dit, ça se trouve, il cherche une espèce de patine du cinéma italien d'auteur, on va dire, fin des années 60, début des années 70, où parfois, tu pouvais avoir une espèce parfois d'image un petit peu délavée, comme ça.
Côté un peu terne.
Sur certains Dino Rizzi, par exemple, des choses comme ça, t'avais des fois, voilà, bon, pas tous, hein, parce que souvent, tu vois, même enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, dans mon souvenir, l'image, elle pète, au contraire, elle est très chaude, bon. Bref, voilà. Et en même temps, ça collait pas du tout, parce que la mise en scène n'est pas du tout à l'avenant. C'est-à-dire, par exemple, s'il avait fait ça, je pense qu'il aurait travaillé sur le zoom, ce qui aurait pu être hyper intéressant, moi, je trouve, sur un film comme House of Gucci. Tu vois, là, le truc du formaliste aurait pu être cool, parce que le zoom a clairement fait partie, les cinéastes italiens, quels qu'ils soient, en ont usé et abusé énormément. Et là, il n'y a pas ça du tout, c'est juste mordre. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un point de vue, en fait, finalement, là-dessus. Alors, sur quoi on se rattrape? Et alors là, c'est la grande question aussi. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai qu'il y a Il y a une histoire qui est manifestement, je pense, fascinante. Mais moi, c'est pareil, je ne comprends pas en fait le point de vue de Ridley Scott. Lui, il dit que c'est un. Alors attends, je vais essayer de retrouver son terme exact. Il dit que c'est une tragicomique, un truc comme ça.
Tragicomédie ?
Non, c'est pas ça. En fait, c'est un néologisme que lui, il a créé en fait pour justement dire que à la fois il a embrassé la tragédie de cette histoire, qui est vraiment, il y a vraiment beaucoup de tristesse là-dedans. On assiste quand même à l'effondrement d'une famille et le côté comique parce que il y a beaucoup de personnages qui sont alors, je suis désolé, je vais utiliser un terme anglais, mais bigger than life, quoi. Enfin, voilà, qui sont énormes, quoi. Et même ça, en fait, je trouve que ça marche ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que à aucun moment, moi, j'ai senti l'abîme de cet effondrement, de cette décadence de la dynastie Gucci, on va dire ça comme ça. Et le film m'a pas fait rigoler du tout non plus. C'est-à-dire que quand il va dans la comédie, donc, j'ai trouvé ça grotesque, grossier et assez embarrassant. Et je pense que ça, c'est dû aussi au casting d'une part, mais aussi à la direction de comédien. C'est-à-dire que quand tu laisses Al Pacino et Jared Leto faire des scènes comme... À un moment, ils ont une scène de signature et il y a Al Pacino qui signe le document. Moi, j'adore Al Pacino, vraiment, mais là, c'est pas possible. Enfin,
c'est pas une scène comique, par contre. Là.
Elle est pas comique, mais lui, il est. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'il a voulu faire à ce moment-là, mais c'est embarrassant. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très embarrassant. Et c'est la même chose avec Jared Leto, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être un beau personnage, en fait, le personnage qu'il joue, parce que justement, c'est un mec un peu cassé. Qui est le vilain petit canard de la famille.
Et qui est persuadé d'être un artiste.
Qui est persuadé d'être un artiste et dont tout le monde se moque, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ces personnages-là parce qu'au final, c'est des monstres, ce type de personnages-là. C'est-à-dire que c'est des personnages qui ne rentrent pas dans une norme et qui, du coup, souffrent de ne pas rentrer dans cette norme-là et qui ne cadrent nulle part. Et sauf que là, en fait, je n'ai pas... point de vue non plus, et du coup moi j'ai beaucoup de mal à me positionner vis-à-vis de tout ça, quoi. Donc au final j'en tire rien en fait de ce film, c'est-à-dire que visuellement moi je n'ai pas tiré vraiment grand chose. Je vois bien qu'il y a un travail sur la taille des deux acteurs là, de Adam Driver et de Lady Gaga. Je vois bien qu'il y a un petit peu de travail aussi sur les costumes, surtout d'Adam Driver, c'est-à-dire que le côté très de plus en plus lâche un petit peu des costumes qu'il peut porter, et je trouve que Lady Gaga est vachement bien.
Moi ça c'est un énorme problème
je la trouve vraiment bien, et y a le maquillage de Jared Leto, je parle du maquillage pas de l'interprétation de Jared Leto, que je trouve techniquement assez hallucinant, quoi. J'avais ressorti son nom, puis je l'ai interviewé, ce gars là mais c'est celui qui avait fait qui était superviseur des effets spéciaux de maquillage d'un film qui s'appelle Border, qui est un film très étonnant qui me plaira probablement pas à tout le monde, mais que je vous conseille de voir, c'est une expérience. Et qui avait déjà, en fait, qui est un peu spécialiste de ça, c'est-à-dire des maquillages prosthétiques très réalistes. Border, c'était ça, justement. C'était un film sur des personnages, et tu vois les mecs au début, tu te dis, mais il allait chercher qui, là ? C'est des gens qui sont... qui pâtissent d'une maladie, peut-être, de quelque chose. T'as un doute, en fait. Est-ce qu'ils sont maquillés ou pas ? Est-ce qu'ils sont, du coup, réels ou pas ? Vers où va me conduire le film ? Et ça, c'était permis par son travail. Bon, c'est pas lui qui avait posé les maquillages. C'est un Français, Pierre-Olivier Persin. Mais il n'empêche que, voilà, c'était... ça, c'est quand même... c'est un atout. Vous voyez, au final, c'est quand même relativement maigre. Mais toi, tu n'aimes même pas Lady Gaga dans le film, hein.
Non, Lady Gaga, je pense que c'est un peu, alors je peut-être je suis peut-être un peu biaisé sur l'affaire, mais Lady Gaga pour moi c'est un peu comme Madonna, en fait. C'est pas des actrices, en fait, c'est des stars, c'est des personnages de public, en fait, qui ont une énorme aura, qui ont une énorme, comment dire, un énorme charisme, mais qui se piquent d'avoir un espèce de stardom, en fait, qu'elles peuvent passer de la musique au jeu, quoi. Et à chaque fois, moi, chaque fois que j'ai vu Madonna dans un film, j'ai trouvé ridicule. Et là, Lady Gaga, c'est la première fois, j'ai pas vu Star Is Born, le remake, quoi, pour lequel elle a apparemment été nommée, et voire je crois qu'elle a gagné même l'Oscar, il me semble. Je sais pas si c'est en tant qu'actrice, mais en tout cas, voilà. Et c'est quelque part, c'est une espèce de validation qu'elle a pu avoir et qui fait qu'elle se retrouve dans ce rôle-là, quoi. Mais pour moi, ce rôle-là, il faut le porter, mine de rien. Et je trouve que c'est pas le cas, mais c'est, à la limite, c'est même pas tellement le, pour moi, le plus gros problème, en fait, de House of Gucci, je suis désolé, c'est Ridley Scott. En fait, et pas uniquement parce que justement, il est, comment dire, et ce qui est vrai, hein, comme le dit Julien, il est en retrait vraiment en termes de formalisme et de mise en scène, quoi. Mais aussi parce que je pense que cet univers-là, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans l'aspect satirique que c'était censé traiter, parce que c'est quand même un univers grotesque, en fait. C'est un univers de Richard. Pour nous, en fait, ça nous dépasse complètement, ce genre de comportement et ce genre de dès le début, par exemple, le personnage de Lady Gaga devrait être un personnage qui est un point d'entrée pour nous, pour rentrer dans cet univers de luxe qui devrait nous fasciner. Et en même temps, avoir un certain recul pour qu'on soit un peu dégoûté par tout ça, quoi. Puisque, en fait, c'est quand même un peu le principe de cette histoire. Si tu racontes l'histoire tragique, pas seulement d'une famille, en fait, mais dans un milieu qui est quand même clinquant, qui est quand même hyper, superficiel, c'est ce que tu es censé faire ressortir, pour moi, en fait, à travers cette histoire-là, dans ce film-là, si tu parles du meurtre, si tu parles de toutes ces choses-là, parce que... Toi, tu as raconté l'histoire vraie quand tu l'as présentée au début, Clémence, mais faut le dire, le meurtre, il arrive... un quart d'heure avant la fin, quoi. C'est sur un film de 2h40.
C'est-à-dire que le film, moi, on me l'avait vendu comme ça raconte l'histoire du meurtre. Je m'attendais à un procès, je m'attendais à ce qu'on parle de la façon dont ça a été traité par les tabloïds, etc. Et en fin de compte, non, ça raconte l'histoire du couple et de la maison Gucci dans sa chute. Mais le meurtre en lui-même et le procès, c'est traité en une scène qui dure...
C'est le pinacle de cette décadence. Moi, ça me gêne pas forcément, ça.
Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait, c'est vendu comme un crime drama. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui cartonne pas mal en ce moment. Hein. T'as une super série, American Crime Story, en fait, qui se base là-dessus, quoi. C'est des crime drama avec des vrais crimes, en fait, qui sont fictionalisés, quoi. Et d'ailleurs, la toute première saison, la People versus O.J. Simpson, c'est super, quoi. C'est vraiment, c'est à voir, c'est hyper documenté et tout, quoi. Là, je doute pas que ce soit documenté, même si je pense qu'il a pris des libertés avec
bah, c'est adapté du livre.
Oui, mais il a pris des libertés, je pense, avec l'histoire vraie, quoi. Ne serait-ce qu'en termes de temporalité, quoi. Mais ça, c'est pas très grave, on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Ridley Scott, c'est quelqu'un qui, quand même, sert la soupe à tous ces gens qu'il est en train de critiquer, en fait. C'est-à-dire que, c'est un pubard, Ridley Scott. Alors, c'est pas un problème en termes visuels, mais c'est un problème en termes de, je veux dire... Il y a une évidence, en fait, qu'il a quand même une fascination pour le bling-bling, à la base, Ridley Scott. Et du coup, le bling-bling qui, pour moi, m'a toujours posé problème. En fait, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas, et vraiment... les gens comparent Tony Scott et Ridley Scott parce que c'est deux frangins, mais pour moi, comparer Ridley Scott... Et ils comprennent pas... Souvent, quand je défends énormément Tony Scott et que je tape sur Ridley Scott, les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais pour moi, c'est comme si tu comparais... je sais pas, moi, Kubrick et Fincher, où ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est-à-dire que c'est chacun est son propre cinéaste, en fait. Chacun est son propre à sa propre voix. Et c'est pas parce que c'est deux frangins et que vaguement ils utilisent des filtres que, voilà, d'un seul coup, en fait, ils ont la même mise en scène. C'est complètement faux. C'est-à-dire, en termes de vraiment de découpage, de façon de penser les choses, c'est pas du tout. Ils ont rien à voir. Ils ont un cerveau qui fonctionne complètement différemment. Et du coup, ce côté bling-bling dont je parle, c'est pas que parce qu'il fait de la pub. C'est-à-dire que moi, c'est le problème que j'ai avec Gladiator. Quand je regarde un film comme Gladiator, j'attends un film historique et historique de façon... C'est-à-dire que d'un seul coup, Ridley Scott, c'est quelqu'un dont je pense qu'il a la capacité de surélever le péplum. De dire à un moment donné, je prends pas le péplum de haut, hein, mais de dire, je fais faire un péplum, un vrai péplum, mais je vais le faire historiquement avec comme la romantique comme vous ne l'avez jamais vu, parce que les anciens péplums n'avaient pas les moyens. Or, quand t'es un type qui a travaillé les Beaux-Arts comme Ridley Scott, quand t'es quelqu'un qui a cette culture, bah tu vas chercher les vrais tableaux, en fait, pour les remettre dans ton film, quoi. Et là, en fait, t'as l'impression que bah non, c'est la même chose que dans les pubs que tu vois au cinéma ou dans les pubs que tu vois à la télé. Et t'as l'impression que au lieu de justement chercher ce style visuel, en fait, des peintures d'époque, parce que c'est le seul moyen qu'on a, nous, en fait, dans l'histoire de l'humanité, de savoir à quoi ressemblait vraiment la romantique, c'est de reprendre les peintures, en fait, au fil du temps et au fil des années, quoi. Bah non, en fait, t'as l'impression que son référent, bah, c'est la pub de la veille. Et pas les siennes, forcément, hein, j'entends. Voilà, moi, ce qui m'avait choqué, c'est de me dire que Gladiator, c'était filmé comme The Rock de Michael Bay, mais en mou. Donc voilà, et ça c'est un des premiers problèmes. Et pareil avec, par exemple, on a dit en intro qu'il filmait beaucoup le Rome, mais c'est pas que Rome, hein, Venise par exemple dans Hannibal et ce genre de choses. Et d'un seul coup, en fait, t'as l'impression que c'est la vision d'un touriste beauf de ces endroits-là. Et mine de rien, de la part du mec qui t'a envoyé dans le futur, comme Blade Runner, quoi, qui t'a vraiment fait croire que ce futur-là, il existait. Moi, pendant jusqu'en l'an 2000, je me suis dit, mais ce futur-là, ça va être notre futur. Le futur qu'on voit dans Blade Runner. Maintenant, on sait que c'est pas le cas, on sait que c'est pas le cas en 2019, mais je me suis vraiment dit ça. Quand le mec est capable de t'envoyer dans le futur, tu te dis, putain, mais tu peux pas nous envoyer dans le présent, dans les autres endroits. C'est quand même dingue, en fait, de pas avoir cet œil-là, quoi. Et pour moi, j'y vois vraiment une part de renoncement de la part de Ridley Scott. Et je suis désolé, je pense que le terme va choquer, mais une part de beaufrie. C'est-à-dire, je pense qu'il a un côté beauf, comment dire, quand il jette ce regard sur ça. Et ce côté beauf, je l'explique dans un film comme House of Gucci, par cette espèce de fascination assumée ou pas, je sais pas, mais pour ce bling-bling, pour ce côté machin. Et du coup...
T'as des exemples spécifiques de ça? Parce que
je le trouve presque, comment dire... il n'y a pas de critique, en fait, de ce milieu-là, en vrai, quand tu réfléchis. C'est-à-dire que tu peux pas passer par le personnage de Jared Leto pour te foutre de la gueule de ce truc-là. Jared Leto, il passe pour quoi? Il passe pour un mec. En fait, tu les vois jamais, ses travaux. C'est-à-dire, il pose trois trucs sur la table, tu sais même pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Tu sais pas si, en fait, les mecs sont en train de lui dire, en gros, t'es mauvais juste parce qu'on a décidé que t'étais mauvais, que t'es un idiot, tu vois? Ce qu'il est de toute évidence, hein, tu vois, quand tu regardes le film, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il est montré dans le film, ou est-ce que, en fait, en gros, c'est un génie incompris? Tu vois, il n'y a pas de critique de tous ces trucs-là. On ne critique pas, ce n'est que dans la surface de toute façon, le paraître est plus important que le reste. Et à partir du moment en fait, où il n'a pas un regard pour moi là-dessus, on se perd totalement en fait, sur le sujet. Quoi. C'est-à-dire que, et je dis pas que le sujet c'est est-ce que Jared Leto a du talent ou pas, c'est pas ça, est-ce que ce personnage a du talent ou pas. Mais disons que même, et là c'est pareil, alors j'en reviens aussi juste pour rester sur Jared Leto rapidement, qui est pour moi une performance mais catastrophique, mais vraiment, mais c'est-à-dire qu'il a beau, se cacher sous des tonnes de... Alors je sais pas si c'est du latex, hein, tu m'excuses Julien, mais enfin, tu as des tonnes de trucs, en fait, t'as l'impression que le mec, il est... Non seulement il est nul, c'est-à-dire il gesticule, il est... Voilà. Non seulement on lui file les pires phrases, en fait, que tu peux trouver dans le film, c'est-à-dire des trucs du genre, il faut pas confondre le chocolat avec la merde ou je sais pas quoi, enfin ce genre de trucs, quoi. Mais en plus, ça me donne une distance, ce maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas du tout l'impression de voir un bouffon. C'est-à-dire, ça aurait été un acteur qui serait vraiment physiquement comme ça, etc., etc. Alors oui, le maquillage est super bien fait, ça c'est vrai. Si tu cherches pas à regarder, en fait, tu peux pas forcément te rendre compte que c'est Jared Leto. Le jeu le trahit, mais le jeu de merde, je veux dire, le trahit. Mais par contre, en fait, ce n'est pas un bouffon, il y a une distance. Et tout le film est comme ça pour moi. Tout le film est distancié. C'est-à-dire que... Donc moi, j'ai l'impression de voir un film qui est totalement en surface de ce qu'il raconte. Pour moi, il aurait fallu un Verhoeven, en fait, sur un truc comme ça, un mec qui rentre dans l'art et qui se fout de leur gueule et qui leur montre à quel point ils sont grotesques, en fait, dans leur fonctionnement, quitte à faire ressortir leur humanité, même par des biais négatifs, hein, pour que tu t'attaches à eux, parce que finalement, la mort de Maurizio à la fin, bah, même si c'est peut-être le personnage le plus neutre, disons, c'est-à-dire le moins atteint par l'aspect ridicule de tout le film pour moi, c'est-à-dire il a pas des grandes scènes effectivement à l'Al Pacino où tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, il a pas des trucs à la Lady Gaga où t'as l'impression qu'elle hurle en fait pour avoir un Oscar, quoi. Malgré cette sobriété, tout ça, etc., moi je trouve que t'es pas du tout attaché au personnage, quoi. Et du coup, sa disparition à la fin, elle est... C'est même à la limite, en fait, comme il n'y a même pas de scène d'enterrement, il n'y a rien, il n'y a que en fait, le truc du procès qui est expédié en 2 minutes 30.
On le voit dans son cercueil, ça dure à peu près 1 minute. On le voit dans son cercueil, ouais.
Oh, d'accord, écoute, je ne me rappelais même pas, tu vois.
Je crois. On voit son père.
On voit Jeremy Irons, voilà, mais ça c'est... Donc voilà, il n'y a pas de renvoi de ces trucs-là, donc il n'y a pas d'attachement. Et moi, je pense que c'est un des problèmes aussi de Ridley Scott, en tout cas... De mon point de vue, je n'ai pas vu le dernier duel, je ne sais pas si c'est le cas dans le dernier duel, mais en fait, dans tous ces films-là, je trouve qu'il a, il a un vrai détachement vis-à-vis de ses personnages, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, et c'est quelque chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher sur Alien et sur Blade Runner aussi, hein, mais en fait, le reste des films était, enfin, le reste du film était tellement incroyable et il te happait tellement dans ces univers-là que ça pouvait ne pas du tout être un souci. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, en fait, Ridley Scott. Et ça se sent sur des histoires comme ça, en fait.
Moi, j'ai eu un vrai problème avec l'écriture du personnage de Lady Gaga. Je sais pas ce que vous en avez pensé, pas son jeu d'actrice, hein, mais le personnage qu'elle incarne. Alors, oui, évidemment qu'elle a été jugée, elle a été condamnée, elle a commenté le meurtre de son mari, mais en fait, dès le départ, même au tout début, quand elle le rencontre, la toute première scène, t'as l'impression qu'on essaye déjà d'emblée de montrer à quel point c'est une arriviste, à quel point...
Je suis absolument pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Stéphane, j'ai du mal là-dessus sur la beaufrie, tout ça et tout. Pour moi, le vrai problème, c'est pas de la côté de la beaufrie ou une espèce d'ambivalence de Ridley Scott vis-à-vis du monde du luxe. C'est vraiment, encore une fois, c'est la même chose avec l'univers visuel du film. C'est un manque de point de vue. Moi, je pense que Ridley Scott, en fait, moi, si je dois analyser à la Sainte-Beuve, on va dire, les trucs de Ridley Scott, c'est que je pense que c'est un mec qui a été cramé par les productions successives de Blade Runner et surtout de Legend, qui ont été des films très compliqués, et surtout Legend qui a été massacré alors que c'était un film dans lequel il avait mis un soin absolument délirant. Enfin, c'est un des films les plus soignés, les plus travaillés de l'histoire du cinéma, hein, quasiment, Legend. Et moi, je pense que depuis ce moment-là, en fait, le mec, c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu, c'est comme ça que j'ai perçu Gladiator et tout, c'est qu'il est devenu un faiseur total. Moi, ce qui m'avait déçu dans Gladiator, c'était pas tant que j'arrivais pas à croire à ce monde-là et tout, c'est que tu sentais qu'il avait vu du Michael Mann, tu sentais qu'il avait vu le 13e guerrier, tu sentais qu'il avait vu... Et c'était comme ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait après la bataille sur... Ou le soldat Ryan aussi. Il arrivait après la...
Surtout le soldat Ryan.
Il avait vu après la bataille tout le temps, quoi. Et je me dis, putain, de la part de Ridley Scott, c'est fou sur un genre pareil où tout reste à recréer en ce moment, c'est incroyable. Et y a un autre truc, je me rappelle aussi, qui m'avait beaucoup marqué, c'est que à l'époque du tournage de 1492, Christophe Colomb, autre film que j'avais plutôt correctement aimé à son époque, et puis que je peux pas revoir aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est irregardable aujourd'hui, ce truc. Mais en tout cas, voilà, le truc à l'époque, c'est qu'il était connu pour être un des cinéastes américains à tourner le plus de minutes utiles par jour. Ridley Scott, et il apparemment ça s'est produit aussi sur House of Gucci, c'est-à-dire qu'il tourne à 4 caméras ou 5 caméras, et contrairement à ce que faisait Tony Scott, c'est pas disons que ça se sent pas au montage, il explose pas l'espace de la même façon, il explore pas avec sa caméra de la même façon, c'est juste, je pense que le mec il abat, quoi, il tourne derrière et quelque part il en a rien à foutre. Et ce côté rien à foutre, moi je le sens là-dedans, mais comme je le sentais aussi dans Seul sur Mars, c'est ça, hein, le titre français. Donc voilà, c'est là, et il a pas de point de vue, c'est pas en fait ce qu'il cherche. Il cherche rien là-dedans. Après, moi, sur Lady Gaga, là où je suis pas d'accord, c'est que il faut savoir d'où part ce personnage chez les gens en fait qui s'intéressent à cette histoire-là. C'est pas mon cas, hein, mais elle a pas été surnommée la veuve noire pour rien. C'est-à-dire qu'elle est c'est la méchante de l'histoire. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'elle n'est pas traitée comme ça au début. J'ai eu une petite affection pour ce personnage-là au début. Je trouve que la première scène de rencontre avec Adam Driver, par exemple, quand lui, il est derrière le bar et qu'elle essaye de le pousser un peu, de le dévergonder un peu parce que le mec est manifestement vierge et qu'elle est un peu plus dévergondée. Il y a une espèce de candeur là-dedans. Leur scène d'amour, par exemple, dans l'espèce de petite caravane, là, et tout. Et là, pour le coup, je revois un petit peu de trucs italiens, en fait, dans le côté très cru, en fait, de ces ébats-là et tout. Bon, ça reste un peu timoré, hein, pour que vraiment je rattrape ça, et je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Et ensuite, je trouve que tu restes, enfin moi je suis resté en tout cas sur ce personnage-là, et je pense que ça vient aussi d'une interprétation de Lady Gaga avec une espèce d'ambivalence. J'aime bien, moi, ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à savoir si je la condamne ou pas. Par exemple, il y a une scène qui peut rime à rien, mais il y a des scènes où tu vois... Mais moi, j'aime bien, en fait, quand t'as... cette ambivalence où voilà, je revenais avec le personnage de Pacino par exemple, où il y a deux trois moments où il lui fait bien sentir la misogynie totale de ce milieu-là et de cette famille, et ça te donne quand même des billes pour tout ce qu'elle fera ensuite. Et pareil, moi j'aime bien quand elle, alors, le personnage de Camille Cotin qui n'existe pas, pareil, moi Camille Cotin, je trouve que c'est une super actrice, hein, elle a quelque chose, elle a du charisme et tout, cette fille. Et là, mais elle est complètement absente.
C'est le rôle, hein, qui veut ça.
Ouais, c'est clair. Mais la scène, par exemple, au ski, quand elle arrive avec cette espèce de combinaison où elle sort complètement du truc, là, pour le coup, il y a un choix visuel de costume et tout qui, moi, je trouve fonctionne plutôt correctement. Le problème, encore une fois, c'est que je trouve que ce travail-là n'est pas poussé jusqu'au bout, et notamment qu'on la perd complètement à la fin. C'est-à-dire que il y a un moment un point de rupture où notamment ces relations avec une voyante qui est jouée par Salma Hayek, ça devient encore. Je pense que pour que ce mélange de satire, enfin pour que ce mélange de comédie et de tragédie fonctionne, encore une fois, il faut savoir ce que tu veux raconter, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il sait plus, en fait, et que de tout à coup il la transforme en une espèce de d'hystéro un peu con, un peu illuminé. Moi, je la perds complètement humainement, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle ne marche plus. Elle dit, je le sens plus, son amour. Je sens pas son cœur brisé. Je sens même pas cette volonté de revanche sociale. Je sens plus rien, en fait. Je sens juste que et c'est dommage parce qu'il y a un point d'équilibre malgré toutes les réserves que j'ai sur le film qui est tenu juste avant. Ça m'a pas permis de ne pas m'emmerder royalement au film, hein, mais c'est là et voilà.
Moi, je rejoins Clémence, en fait, sur ce point, mais pour une raison très simple, c'est que je pense que tout le fonctionnement de Ridley Scott, c'est d'être un gros bourrin. Quand je dis que c'est un beauf, en fait, et qu'il a une approche de beauf, ça participe aussi, c'est pas que visuellement, hein. C'est que, en fait, toutes les façons de traiter ces personnages-là, c'est à la truelle, quoi. C'est hyper grossier, c'est... Voilà. Donc oui, tu peux dire que, effectivement, d'un côté, il y a le Pacino qui lui fait sentir que c'est un univers très masculin et qu'elle a pas sa place et ce genre de choses. Oui, mais en fait, tout le reste... Enfin, même ça, c'est traité assez de manière assez bourrine, en fait. Donc du coup, effectivement, on perd déjà ce que le film veut vraiment raconter dans l'absolu, même si moi, en fait,
je suis pas d'accord avec ça, hein,
en tout cas, je maintiens que je pense que il y a aussi, je te dis, il est pas tout à fait il a pas un dédain, en fait, pour ce milieu-là non plus. Je pense que c'est ça fait partie des problèmes du film, à mon avis. Quand tu fais un film comme ça, encore une fois, hein, je veux dire, tu peux faire un film comme ça et en fait totalement voilà, mais l'angle du film à la base, en tout cas sur le papier, sur le scénario, c'est d'être un peu agressif vis-à-vis de ce milieu, quoi. Et le film ne l'est pas vraiment, quoi. Donc le truc, c'est
au bout d'un moment, et c'est vrai qu'il prend pas parti, mais par contre, si tu veux qu'il ne le soit pas au début, et notamment sur la façon qu'il a de dépeindre le personnage de Pacino, moi, ça me dérange pas.
On parle de Pacino,
quoi.
Mais le personnage de Jeremy Irons, c'est un personnage qui dit ouvertement qu'il ne veut pas que son fils épouse justement une nana dont la famille, en fait, c'est une famille de routiers, quoi, qui a une entreprise de routiers. Donc voilà, il y a une problématique de lutte de classe sociale, ce qui est un truc, en fait, qui en plus, pour le coup, a été énormément, fait partie énormément de la culture italienne aussi, hein, c'est quand même un truc qui existe aussi, quoi, là-dedans, enfin, partout, mais en Italie, en fait, il y a plein de films qui sont sur ça, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est assez clair, en fait, que normalement, le parti pris qu'il devrait prendre vis-à-vis de ça, c'est un parti pris où on est censé être du côté du personnage de Lady Gaga, on est censé être du côté du personnage d'Adam Driver dans ce moment-là, et en fait, le film, il s'en fout, il te montre les trucs un peu comme ça, et puis ça s'arrête là. Si toi, en fait, tu t'en restes à ce que le scénario raconte, tu le comprends, mais le film te le vend pas en termes émotionnels, quoi. Et du coup, mais ça fait partie de toute cette problématique, en fait. Pour moi, c'est tout le truc et puis Ridley Scott, il fait beaucoup de films, hein. Je veux dire, le dernier duel, il est sorti il y a un mois et demi, hein. Alors certes, il y a eu le Covid, certes, il y a eu tout ça, etc., etc., mais c'est quelqu'un qui tourne énormément, qui tourne très très vite, effectivement. Et oui, et c'est un vieux monsieur maintenant aussi, il a 84 ans. C'est admirable, hein, qu'il puisse faire des films aussi gros à cet âge-là encore. Hein, on l'accorde à George Miller quand il fait Mad Max, donc on peut l'accorder aussi à Ridley Scott, quoi. Mais Oui, enfin voilà, donc oui, enfin moi je sais même pas si on a vraiment grand-chose à rajouter sur le film en soi. Moi enfin ce que je vois en fait quand je vois un film comme ça, c'est une brouette à Oscar. C'est-à-dire que vraiment je me dis OK, donc en fait tu regardes la bande-annonce et d'un seul coup tu as tous les gens qui sont nommés ou qui ont gagné l'Oscar en fait qui sont présentés à la queue leu-leu comme ça, tu vois. Donc tu as Ridley Scott, tu as Lady Gaga, tu as Al Pacino, tu as Jeremy Irons, tu as machin, même si c'est des Oscars qu'ils ont eu il y a 30 ans quoi. Et en gros le film se fait parce que tu as effectivement le nom de Ridley Scott et tu as tous ces gens en fait derrière pour dire voilà, c'est ça se veut être un grand film à Oscar, et à mon avis ils se sont plantés mais dans les grandes largeurs. Je pense que ça va jamais aller aux Oscars un truc comme ça, peut-être un ou deux trucs, mais voilà. Donc c'est déjà cette ambition là en fait, je pense pas que ce soit que du market. Je pense qu'il y a aussi cette volonté chez Ridley Scott. Il a cette aura hein, à la base. On a beau lui taper dessus depuis tout à l'heure, en fait, il faut quand même. Enfin, c'est quand même un cinéaste qui est révéré. Hein. Faut en mettre un peu les pendules à l'heure, quoi. Et pour moi, ça fait chou blanc aussi là-dessus, quoi. C'est-à-dire que en gros, et puis là, même pas seulement en termes de qualité. Hein, je pense même en termes de ce que c'est en fait dans la façon dont ça sort, quoi. Je pense que c'est plus. On n'est plus. Pour moi, c'est un film. C'est un film à l'ancienne en fait, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que en gros, c'est un film où quand je vois en fait qu'on va chercher un mec comme Jared Leto parce qu'il a cette street cred d'acteur à Oscar, etc., etc., qui est complètement usurpé à mon sens, hein, mais qu'on le maquille pour lui faire jouer ce rôle-là, en fait, c'est vrai. Enfin, t'as l'impression de revenir 40 ans en arrière en fait, et dans ce genre de choix de casting. Et du coup, la véracité. Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde en fait où il y a énormément de films qui sortent, énormément ce qu'on appelle maintenant du contenu. Et du coup, à défaut d'avoir des films de qualité, parce que on en parle suffisamment ici pour savoir que c'est pas le cas, on commence aussi à percevoir qu'il y a des choses qui se sont plus vraiment quoi. Et en tout cas, si tu le fais, il faut vraiment que tu aies effectivement un point de vue. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà.
Julien, t'es d'accord avec ça, que c'est un film à l'ancienne qui aura pas d'Oscar ?
Ouais, je sais pas trop, oui, que ce soit un truc... En fait, que le film ait été produit parce qu'il y a un espoir d'avoir des Oscars, oui, c'est indéniable. C'est le modèle économique de ce type de film. Hein. Sur le reste, je sais pas trop. Non, moi, je vois pas trop ça.
Bien
non,
aimé,
non,
en fait.
Moi, je reste vraiment sur cette problématique de point de vue qui est pour moi fondamentale à peu près à tous les niveaux, quoi. Si je dois résumer mon avis là-dessus, quoi. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce qui est paradoxal chez Ridley Scott, c'est qu'il est encore cette aura d'auteur, alors qu'il régulièrement. Parce que j'ai pas vu tous ses derniers films, hein, mais j'en ai quand même vu un bon paquet, quoi. Et régulièrement, c'est quasiment tous ses derniers films. Pour moi, il manque de ça, en fait. Il manque d'une patte, en fait.
Alors, on n'a pas vu le dernier duel.
Mais on n'a pas vu le dernier duel.
C'est le même directeur de la photo dans les deux.
Ah ouais, mais il est pas là, franchement.
Darius
Wolski, moi j'ai beaucoup de mal, quoi, aussi. Hein. Ça fait un moment en plus. Hein. Bah, je sais pas, c'est quoi la dernière fois qu'il a fait une belle photo.
Moi, je me rappelle de lui à l'époque de Home with Bleeding, évidemment, de The Crow, parce que c'est la première fois, je crois, qu'on avait vu vraiment
ça,
son nom.
C'est
de
l'eau à couler sous les ponts depuis voilà, The Crow.
Et moi, disons que le premier film où je me suis vraiment dit ah bon, c'est Darius Wolski, c'était vraiment sur Les Pirates des Caraïbes. Et là, je me suis dit ah merde. Donc voilà, et bon.
Mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui est connu pour aller très vite, en fait, je crois, sur les plateaux. Darius Wolski, mais c'est vrai que c'est sur Les Pirates des Caraïbes, tu vois, tu te retrouves avec ce ciel pareil, tout blanc là.
Mais tu le reconnais pas, hein, de toute façon. Hein. Si, en tout cas, si tu te bases sur moi, ce que je pense de ses débuts, hein, c'est-à-dire à l'époque, les deux chocs visuels qui étaient The Crow et Romeo's Bleeding, si je dis pas de bêtises, c'était des trucs, il avait une façon de faire qui était très spécifique. Et là, on est totalement dans du Ridley Scott. Enfin, c'est le Ridley Scott d'Hannibal et de Traqué et de G.I. Jane. Hein. donc c'est, je ne cite pas les meilleurs films. Et de Gladiator, si vous voulez, mais bon, voilà, c'est pour moi
Goran,
c'est la même chose.
Goran Lundstrom, le mec qui a fait les effets spéciaux de maquillage, voilà. J'arrive pas à me souvenir de son nom, quoi. Je me souviens de son prénom, Goran, mais voilà. Très gentil.
Très bien, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ridley Scott rhabillé pour l'hiver. si vous voulez vous faire votre propre avis.
On va encore s'en prendre plein la gueule. À chaque fois qu'on parle de Ridley Scott, on s'en prend plein.
Ah, mais j'ai l'impression qu'aussi le film, il est hyper critiqué, celui-là, hein, pour le coup.
On s'en est pris plein la gueule quand on n'en a pas parlé aussi.
Oui, effectivement. Ouais. Donc on s'en prend plein la gueule de toute façon.
Voilà. Si vous voulez vous faire votre propre avis, House of Gucci, c'est sorti en salle ce 24 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous nous donnez votre avis sur le film dont on vient de parler. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Dites-le nous.
Vous n'êtes pas d'accord avec vous aussi.
Avec vous-même, peut-être.
Ce serait intéressant, ça. Le mec, il laisse deux messages où il s'auto-engueule.
Ça serait drôle. Mais en tout cas, vos messages, on les attend. Pour ça, c'est très simple. Rendez-vous sur Messenger. Vous cherchez Capture Mag et vous nous laissez un petit message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission.
La dernière fois, c'est qu'il y avait, il y a, dans l'émission sur Resident Evil, on a eu deux messages. Donc, un mec qui avait vu le film précédent, s'était affamé. Et un mec qui dit qui fait un message pour dire ne faites pas de messages. Donc, si faites des messages, déjà, c'est, j'ai envie de le dire, parce qu'en fait, c'est quand même comme un courrier des lecteurs.
Le mec
en fait.
a appelé pour dire qu'il fallait pas laisser de messages.
Ouais.
Il a laissé un message. C'est un peu bâtard.
Non, mais moi, j'ai envie de le dire, si, on laisse des messages, et surtout, c'est comme un courrier des lecteurs, quoi. Mais surtout, en fait, pas forcément que des messages sur est-ce que vous avez aimé ou pas aimé le film, mais est-ce que vous avez aimé l'émission ou pas l'émission, quoi. Tu vois.
Et puis, en plus, on vous donne on essaye parce que c'est pas simplement que Ridley Scott, il a pas son rond de serviette, c'est que aussi, il est. On essaye de vous présenter des arguments, donc rebondissez effectivement là-dessus. C'est à ça que ça sert. Voilà. On essaye d'instaurer un dialogue, quoi. Voilà.
Voilà. Bref, parlez-nous, écrivez-nous, laissez-nous des messages audio sur le Messenger de Capture Mag. C'est le temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Merci Alain à la régie.
Merci à vous.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Hein, si vous nous découvrez pour la première fois, pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. Si vous nous suivez déjà, on a changé de flux pour ce podcast. La semaine prochaine, on arrête de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Donc pour continuer à nous écouter et ne rien rater, il faut chercher Sale Temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore un peu. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, nous relayer sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne YouTube.
Vous pouvez laisser des messages aussi.
Et vous pouvez laisser des messages d'amour à Julien et à toute l'équipe sur le répondeur. Allez. Je vous laisse, sale temps pour un film. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine. Salut!
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.